Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est maintenant les oreilles loin du front. Alors qu'est-ce qu'on écoute principalement Juliette ce soir ?
Alors ce soir, nous allons parler adoption. Alors j'imagine que vous ne pouvez pas louper en ce moment tout ce débat dont on nous rabat les oreilles sur le mariage pour tous, sur l'adoption et sur la PMA. Alors aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu de hauteur et essayer de penser l'adoption, puisque nous allons vous passer des extraits d'une conférence de Bruno Perrot. Alors Bruno Perrot est un politiste qui est professeur au MIT et aussi à Cambridge et qui a sorti un bouquin au début de l'année 2012, en fait il y a près un an, qui s'appelle « Penser l'adoption » et c'est aux Presses universitaires de France. En fait, il était en conférence l'an dernier à peu près, à cette même époque, c'était à Sciences Po, et c'était dans le programme qui s'appelle le programme Présage, qui s'appelle Programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Et donc on écoutera en partie de cette conférence pour essayer de repenser un peu ce que c'est exactement l'adoption, parce que finalement on s'apercevra que les choses sont bien plus compliquées et beaucoup moins simples que ce qu'on entend à la radio.
Voilà, donc l'adoption, ce sera le thème de notre dossier du jour. Et puis après, on aura des petites chroniques sur un film et un magazine notamment.
Hunted.
Ouais, c'était un peu de gnawa diffusion avec les oreilles et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. On va passer au dossier du jour. Alors le dossier du jour, aujourd'hui, on va parler adoption. Alors adoption, l'adoption, on entend beaucoup parler dans les médias, en particulier avec la loi sur le mariage pour tous qui est son débat qu'il y a autour. Mais alors là, on va prendre un peu de hauteur et on va le penser, mais plus d'un point de vue... politiste ou en tout cas d'un point de vue universitaire, puisqu'on va vous passer des extraits d'une conférence qui a eu lieu à Sciences Po, donc c'était en janvier dernier, en janvier 2012, et c'était à l'occasion de la sortie du livre de Bruno Perrot, qui est donc un politiste qui est professeur au MIT et à Cambridge, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Penser l'adoption », et c'est publié aux éditions universitaires de France. Alors « Penser l'adoption », c'est quand même... Comme ça, on a tous un peu une image. Grosso modo, l'adoption, ça établit une filiation sans lien biologique entre parents et enfants. Alors, ça constitue d'une certaine façon une résistance. Et ça peut constituer d'ailleurs, et c'est tout l'objet du débat en ce moment, une résistance potentielle au phénomène qu'il y a aujourd'hui de vraiment de biologisation qui caractérise en fait le droit de la famille depuis 72. Et pourtant, en fait, on voit bien que l'adoption est quelque chose d'assez complexe et d'assez évolutif, en fait, puisque cette histoire d'adoption, les lois ont changé énormément depuis sa mise en place à l'époque Napoléon. Il y a même une époque où on pouvait même adopter des gens plus âgés que soi, ce qui était quand même, dans le principe, assez étonnant hein, comme concept. Et aujourd'hui encore, quand on dit, quand on entend dans les médias, oui, il est impossible d'avoir quatre parents, et ben en fait, dans le droit, il est tout à fait possible d'avoir quatre parents, puisque avec des adoptions simples, en France, on peut avoir quatre parents légalement sur son acte de naissance. Donc, on peut voir des choses vraiment étonnantes et dont on n'a pas forcément idée quand on parle d'adoption comme ça d'un premier abord. Et donc c'est ce livre qui a été publié par Bruno Perrot qui nous fait un peu aussi réfléchir sur la façon dont on pense les rôles parentaux, puisque pour pouvoir être parent adoptant, il faut quand même passer... par une sorte d'enquête, une enquête qui est faite par la société, qui est faite par les assistantes sociales, qui est faite par l'État qui gère ça. Et ça permet aussi de réfléchir à plein de sujets étonnants, cette adoption qui n'est pas aussi simple qu'on peut s'imaginer. D'ailleurs, puisqu'on n'y connaît pas grand-chose en matière d'adoption, avant de parler plus particulièrement de ce qui nous intéresse, ou en tout cas ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est-à-dire la notion plutôt d'homoparentalité ou de pluriparentalité, on va essayer de comprendre quelles sont les lois qui aujourd'hui régissent l'adoption et qu'est-ce qui organise cette adoption en France. Donc c'était Bruno Perrot à Sciences Po en janvier 2012.
L'adoption en France est régie par la loi du 11 juillet 1966 et qui installe deux dispositifs distincts, l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption plénière permet de remplacer la filiation biologique, si elle existe, par la filiation adoptive. Donc c'est une logique de substitution. Quand l'adoption simple est un système d'addition, c'est-à-dire que la filiation d'origine biologique est à la filiation d'origine, pardon, la filiation adoptive vient s'ajouter. Par ailleurs, l'adoption est ouverte conjointement au seul couple marié et individuellement aux célibataires de plus de 28 ans ou à un époux ou une épouse au sein d'un couple marié avec l'assentiment de son époux ou de son épouse. Et là aussi, la personne, puisqu'il s'agit d'une adoption individuelle, doit avoir plus de 28 ans. Donc la logique de l'adoption plénière et la logique de l'adoption simple ne fonctionnent pas réellement ensemble, dans la mesure où l'adoption plénière, donc remplaçant une filiation par une autre, est essentiellement utilisée pour des adoptions extra-familiales, quand l'adoption simple est essentiellement utilisée, il s'agit d'un ordre au-delà de 90% dans les deux cas, pour des adoptions intra-familiales. Donc l'adoption simple sert essentiellement à adopter au sein de la famille après des recompositions familiales, quand l'adoption plénière sert au contraire à adopter quelqu'un en dehors de son univers familial d'origine. Donc si vous avez d'un côté l'adoption simple et de l'autre l'adoption plénière, et que par ailleurs il est possible d'adopter à la fois en tant que célibataire de plus de 28 ans, en tant que membre d'un couple marié de plus de 28 ans ou en tant que couple marié, cela veut donc dire que légalement, en France, il est possible, par la voie de l'adoption, d'avoir un, deux, trois ou quatre parents. Ce qui montre bien que l'adoption déroge à la vision de la famille nucléaire que l'on peut avoir coutumièrement. Par ailleurs, il faut ajouter que l'adoption permet aussi de relativiser une autre caractéristique que l'on associe à la filiation, c'est-à-dire la question de la génération. Puisque dans le cadre de l'adoption simple, il est possible que l'écart d'âge soit... L'écart d'âge est de toute façon un écart d'âge de 15 ans, mais il peut être ramené à 10 ans dans des circonstances spécifiques que le juge apprécie, voire descendre en dessous de la barre des 10 ans. Donc, de l'ensemble de ces éléments, le caractère central du couple, il est possible d'adopter au sein d'un couple marié, mais de façon disjointe en quelque sorte. La différence des sexes et la différence des générations sont réaménagées par le dispositif de l'adoption. Et si je mentionne cela, ça ne veut pas dire pour autant que l'adoption est nécessairement une filiation alternative à la filiation biologique. Cet élément de base pourrait le laisser croire. Or, en fait, l'histoire de l'adoption montre que l'adoption a toujours été, en quelque sorte, attelée à la question du biologique. Soit parce qu'on la concevait comme un complément de la filiation biologique, soit parce qu'il s'agissait de singer la nature, c'est le mot de Napoléon lorsque le Code civil aménage le titre sur la filiation d'une part et le titre sur l'adoption d'autre part, qui est distinct du titre sur la filiation. Par ailleurs, je vais aussi évoquer la question de la bioéthique pour montrer à quel point l'adoption est en tension permanente et attelée à la question du biologique. Donc l'argument qui consisterait à voir l'adoption uniquement comme une filiation alternative est largement excessif. Et il y a, il me semble, une erreur politique dans le fait de s'engager au profit de l'adoption au nom du renouvellement du type de liens sociaux possibles entre les individus, en considérant que l'adoption va pouvoir étendre les possibilités relationnelles entre les êtres humains, sans prendre en considération le fait qu'il y a une tension, une articulation aux faits biologiques. L'adoption n'est pas uniquement une institution révolutionnaire, même si elle a été aussi pensée comme telle durant la Révolution française. Alors, pourquoi ce dispositif en 1966? Et justement, est-ce que le législateur voulait être particulièrement radical en 1966? Il faut revenir sur les circonstances de cette loi du 11 juillet 66, qui est l'affaire Novak, qui est l'histoire d'un petit garçon qui, de la fin des années 50 au milieu des années 60, a vu sa filiation contestée. C'est-à-dire qu'il avait été d'abord abandonné, puis adopté, et puis les géniteurs se sont manifestés de nouveau, et l'enfant, après différentes décisions judiciaires, est retourné dans sa famille d'origine, puis a été replacé en quelque sorte dans sa famille adoptive, et ce pendant plusieurs années au gré des décisions de justice. Et donc le législateur a souhaité en 1966 que ce type de situation ne soit plus possible. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a souhaité adopter ce dispositif très particulier qu'est l'adoption plénière, qui va remplacer une filiation par une autre. L'adoption plénière, en 1966, elle a pour but de sécuriser la filiation de l'enfant en effaçant les données biologiques. Et donc on est aujourd'hui à front renversé, puisqu'on considère que ce qui va sécuriser, la vision dominante de la filiation est de considérer que ce qui va sécuriser l'enfant, c'est au contraire d'avoir, sous forme d'information et ou de filiation, pour réfléchir à cette tension-là, un lien avec ses origines, avec les géniteurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, justement, pour qu'il y ait un déplacement de cette conception ? Ce qui s'est passé entre-temps, d'abord, c'est le développement de l'adoption internationale. À partir de la fin des années 70, l'adoption internationale va augmenter considérablement. Il y avait à peu près 900 adoptions internationales au début des années 80, 3000 au début des années 90, un peu plus de 4000 au milieu des années 2000, et aujourd'hui il y a 3500 adoptions internationales par an. À l'inverse, les adoptions nationales vont baisser parce que le nombre d'enfants abandonnés va baisser et que le recours à l'accouchement sous X va lui aussi baisser. Il y avait 1200 adoptions nationales au début des années 80, il y en a 800 aujourd'hui. Ça veut dire que la réalité de l'adoption est principalement une réalité qui l'articule ou qui l'a avec d'autres droits, avec d'autres normes sociales, qui sont celles et ceux des pays d'origine. Cela veut donc dire aussi que la question de l'attelage entre vérité et vraisemblance va se déplacer nécessairement, parce que la possibilité de faire comme si, dans le cadre de l'adoption plénière, l'enfant adoptif était né de ses parents adoptifs, la loi 66 permet la réécriture de l'état civil de l'enfant, pas seulement le prénom, mais aussi le lieu de naissance, par exemple. Et un des éléments de débat en 1966 de certaines propositions parlementaires était précisément de savoir si ou on allait retranscrire le jugement d'adoption dans les registres d'état civil de la commune de naissance de l'enfant. Et le législateur a explicitement écarté cela, parce que si cela avait eu lieu, cela aurait permis plus facilement, donc évidemment à l'enfant, si celui-ci apprenait qu'il était adopté, de savoir où il était né, et donc d'avoir potentiellement plus de facilité pour retrouver ses géniteurs. Donc, l'articulation entre la vraisemblance et la vérité n'est pas la même en 66 qu'aujourd'hui, parce qu'il y a l'adoption internationale et que la question de la couleur de peau réaménage cette tension entre vérité et vraisemblance. Évidemment, c'est aussi l'émergence d'autres questions, comme la question de l'homoparentalité, qui participe de cette redéfinition. Et puis enfin, l'adoption ne fonctionne pas de façon autonome, elle est évidemment articulée à d'autres politiques publiques de la filiation, et la façon dont les autres politiques publiques de la filiation sont mises sur l'agenda, mises en sens, concourt à la définition de ce qu'est l'adoption. Par exemple, la procréation médicalement assistée. Alors, au début des années 80, est mise en place, est installé un comité national d'éthique qui va proposer une expertise sur un certain nombre de questions qui ont trait au corps et à la filiation. Et ces recommandations vont être largement reprises dans la première loi de bioéthique de 1994, qui pour la première fois inscrit dans le droit une condition d'hétérosexualité pour accéder à la filiation, puisque la procréation médicalement assistée implique en droit une condition de stérilité dans le cadre d'un couple hétérosexuel. Et ce changement de paradigme va évidemment avoir un impact sur l'adoption et notamment sur la jurisprudence administrative en matière d'agrément. Le Conseil d'État ayant jusqu'au début des années 90 eu une jurisprudence relativement ouverte sur les motifs de refus d'agrément et va désormais, à partir du milieu des années 90, considérer que la différence des sexes est un critère d'appréciation dans le cadre de la délivrance de l'agrément pour l'adoption. Je dois vous préciser une toute petite chose aussi. La procédure d'agrément est une procédure qui ne concerne que l'adoption plénière et qui ne concerne pas l'adoption simple. Autre petite précision aussi, l'adoption plénière est limitée aux enfants de moins de 15 ans, sauf si ceux-ci ont été recueillis pendant 6 mois dans la famille adoptive avant l'âge de 15 ans. L'adoption simple est ouverte aux mineurs et aux majeurs. Donc on peut adopter un majeur dans le cadre de l'adoption simple. Donc vous voyez la vision que l'on peut avoir de la filiation nucléaire, c'est-à-dire un père, une mère, des enfants, est à la fois questionnée par l'adoption et en même temps l'adoption rend hommage à certains égards à cette filiation nucléaire, dans la façon dont elle est à la fois construite juridiquement et pensée socialement aujourd'hui. Un autre exemple très révélateur, c'est que la procédure d'agrément doit durer 9 mois, de telle sorte à ce que ce soit une copie de la grossesse.
ouais, c'était The Hoppers et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Alors le dossier du jour ce soir c'est l'adoption en fait, puisqu'on vous passe un extrait d'une conférence qui a eu lieu à Sciences Po dans le cadre du programme Présage, qui est le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre à Sciences Po. Et donc il recevait Bruno Perrot, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Penser l'adoption, et c'est aux éditions PUF. Et donc Penser l'adoption, quel est le parcours justement d'une famille adoptante? Et donc c'est Bruno Perrot.
Quelques mots sur ce que font les travailleurs sociaux qui fonctionnent pour beaucoup. Alors je vais parler de travailleurs sociaux au sens très large du terme, c'est-à-dire assistants sociaux, éducateurs spécialisés, psychologues, psychanalystes qui interviennent dans le champ de l'adoption, même si j'essaierai aussi évidemment de distinguer leurs rôles qui ne sont pas exactement les mêmes. En matière de délivrance d'agrément, les travailleurs sociaux fonctionnent selon une logique, qui est une logique de risque. C'est-à-dire qu'ils raisonnent dans le cadre de la procédure d'agrément par rapport à des potentialités. Il n'y a pas encore d'enfant. Quand ils soulèvent la question de l'intérêt de l'enfant, c'est un enfant qui est virtuel. Et se pose donc la question de savoir quel est cet enfant dont on parle, en quelque sorte. Qui parle à travers cette notion d'intérêt de l'enfant. Les équipes de l'aide sociale à l'enfance, qui donc délivrent les agréments, sont constituées soit de travailleurs sociaux spécialisés, c'est-à-dire des travailleurs sociaux qui travaillent sur l'adoption en permanence, soit des travailleurs sociaux qui, parce que ce sont des petits départements et qu'il y a peu de cas d'adoption, interviennent de façon sporadique. C'est-à-dire qui, évidemment, ont une compétence sur les questions d'aide sociale à l'enfance, de recueil des enfants abandonnés le plus souvent, mais qui ne font pas que des adoptions, en quelque sorte. Ce qui, évidemment, change aussi la façon dont les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent fonctionner. Il faut ajouter aussi le fait qu'au sein d'un même département, il peut y avoir des différences notables entre différentes équipes de l'aide sociale à l'enfance. Donc des modes de raisonnement différents, des questions différentes posées aux parents. On va, dans certains cas, dans certains départements, dans certaines sous-préfectures, demander aux parents de parler de leur famille. On va faire des enquêtes de voisinage pour savoir L'enquête de voisinage est toujours pratiquée dans une majorité de services sociaux à l'enfance. Même si, en effet, il y a un décret en 2007 qui a précisé la façon dont doit fonctionner l'agrément et l'enquête d'agrément, les travailleurs sociaux restent très très libres d'interroger l'entourage des candidats à l'adoption. Donc il y a des grandes différences d'un département à l'autre, mais parfois au sein même d'un département. Il y a un décret donc, qui donne désormais des directives aux travailleurs sociaux, mais comme je vous le disais, les travailleurs sociaux restent libres de leur pratique, et donc les différentes équipes ont chacune des procédures qui leur sont propres. C'est-à-dire certaines fonctionnent avec des grilles d'enquête, c'est-à-dire des listes de questions prédéterminées. D'autres fonctionnent de façon plus libre, c'est-à-dire en fonction du candidat, ils vont poser un certain nombre de questions. Et là aussi, il y a une grande variation d'un département ou d'une équipe à l'autre. Dans le département de Saône-et-Loire, cette équipe formulait la grille d'enquête de la façon suivante. Grille d'enquête libellée au nom de Monsieur et Madame, qui doit permettre de dégager les points positifs et négatifs de la demande en émettant un avis motivé, favorable, réservé ou défavorable. On demande l'âge, évidemment, des parents, mais aussi l'âge des enfants souhaités. Les candidats doivent décliner nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité, profession, employeur, etc. La date du mariage, ce qui indique que la situation de célibat n'est pas envisagée par les travailleurs sociaux. L'existence d'un précédent mariage et, le cas échéant, le motif de sa dissolution et l'existence d'enfants nés d'une précédente union ou de cette union. Parmi les autres renseignements demandés, des données familiales et professionnelles qui doivent, et donc c'est le titre de, de cette grille d'enquête, construire le CV, donc le curriculum vitae, du candidat. Ce qui permet aussi évidemment de voir que les travailleurs sociaux conçoivent l'agrément comme un véritable recrutement. Les candidats doivent parler de leurs études, de leur service militaire, de leur religion et de leur carrière professionnelle, leur degré de satisfaction dans cette activité. Il faut noter que l'adoptante, et elle seule, doit préciser le mode de garde de l'enfant souhaité en fonction de son activité professionnelle. Je vous passe les détails sur les conditions matérielles d'accueil de l'enfant, mais je vous donne un autre élément qui m'a semblé assez, assez parlant. Par exemple, on va demander bien sûr le vécu de l'enfance et les relations avec la famille, mais aussi des renseignements provenant de l'employeur, les relations donc avec le voisinage et l'engagement politique, le cas échéant. Et vous, certains éléments sont même stupéfiants, puisqu'il est précisé que le travailleur social fournira un descriptif physique des candidats à l'adoption si nécessaire. Donc je vous passe d'autres éléments, mais enfin c'est pour vous montrer comment opère le degré de contrôle. Ça ne veut pas dire que c'est généralisé. Il y a évidemment un grand nombre de travailleurs sociaux qui fonctionnent avec éminemment plus d'intelligence que ce cas-là. Néanmoins, ce sont aussi des pratiques qui existent et qui montrent bien la diversité des pratiques au sein des différents départements. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que les assistantes sociales ont une position centrale. Par exemple, dans les deux départements que j'ai particulièrement étudiés, Paris et la Saône-et-Loire, c'est à la demande des assistantes sociales qu'interviennent interviennent les psychologues. Et à partir des débats sur la bioéthique et du revirement de jurisprudence du Conseil d'État dont j'ai parlé avec les refus d'agrément, les choses changent. C'est-à-dire qu'on va demander aux candidats à l'agrément non pas seulement d'être dans une situation d'hétérosexualité, mais de pouvoir signifier à l'enfant la différence des sexes. C'est-à-dire signifier, donc c'est là où on voit l'importance des savoirs professionnels des psychologues et la façon dont ceux-ci se sont diffusés à différents niveaux, au niveau du travail de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi à travers l'expertise nationale dans les comités d'éthique et l'influence sur la définition de la loi, en l'occurrence la procréation médicalement assistée, et par ricochet, en quelque sorte, sur la jurisprudence du Conseil d'État. Il est ensuite demandé donc de signifier la différence des sexes, signifier psychologiquement, et c'est là que la différence de traitement entre hétérosexuel et homosexuel intervient, car dans le cadre des refus d'agrément pour les célibataires hétérosexuels, le Conseil d'État examinait, et c'est un argument que Daniel Borillo a développé, examinait in concreto les refus, c'est-à-dire au cas par cas, alors que dans le cadre des refus d'agrément avec homosexualité du candidat ou de la candidate, c'était un refus qui était fait in abstracto, c'est-à-dire en tant que tel. L'homosexualité s'opposerait en tant que tel à la distinction des sexes. Ce qui est aussi une chose importante à préciser, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, les pratiques se sont transformées largement grâce à la médiatisation de l'homoparentalité, grâce à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'en demeure pas moins que si vous voulez être agréé, il va falloir jouer ce jeu-là. C'est-à-dire jouer ce jeu de « je suis candidat célibataire, hétérosexuel ou homosexuel, mais je suis conscient que de l'importance du couple hétérosexuel, et il y aura des hommes et des femmes dans l'environnement de l'enfant, et que nécessairement celui-ci sera bien certain que le monde est globalement un monde hétérosexuel. » Voilà. Et donc si on joue ce jeu-là, il est possible, en effet, d'être agréé. Ce que j'essaye de montrer dans un des chapitres de ce travail, c'est précisément que ceci participe du fait de resignifier la centralité du couple parental hétérosexuel. Les travailleurs sociaux que j'ai interrogés par questionnaire qui sont favorables à la délivrance de l'agrément aux célibataires homosexuels, le principal élément rhétorique qui intervient chez eux, le plus probable statistiquement, c'est une comparaison. C'est l'expression la plus probable, c'est qu'un couple hétérosexuel. Ça veut dire que lorsqu'on évalue des candidatures qui sont des candidatures non normées, on les évalue par rapport à un couple, par rapport à un couple hétérosexuel ou l'image que l'on a du couple hétérosexuel. Et d'une certaine façon, ce que j'essaie de montrer, c'est que il est possible de soutenir qu'un homme peut exercer un rôle maternel et qu'une femme peut exercer un rôle paternel. Certains travailleurs sociaux développent ce point de vue. On assiste aussi à ce type de développement de plus en plus fréquemment dans différentes émissions aussi, dans les médias dont je parle, qui parlent des hommes maternants et de la fonction autorité des femmes. Il n'en demeure pas moins que l'idée qu'il y a des rôles d'autorité d'une part, qui sont des rôles paternels, et des rôles de protection, de soins d'autre part, qui sont des rôles maternels, reste intacte. Et la vraie question, la vraie menace que fait courir à l'ordre symbolique l'homoparentalité, c'est ça. C'est pas seulement de questionner, je dirais, les différentes identités parentales, le type d'identité parentale, mais c'est questionner l'idée même d'identité. C'est-à-dire l'idée même qu'il y aurait des éléments qui sont propres à un sexe donné. Et pour répondre du coup à votre question plus précisément, au sein des services de l'aide sociale à l'enfance, bien que les assistantes sociales soient au centre du système institutionnellement parlant, elles n'en demeurent pas moins très marginalisées parce qu'elles sont, je dis elles parce qu'elles ce sont des femmes à 95%, pour une fois on ne va pas appliquer la règle du genre. Bien qu'elles soient au centre du système, elles n'en sont pas moins soumises à l'expertise extérieure de ces psychologues qui sont beaucoup plus mobiles. Donc il y a une forme de domination au sein des services de l'aide sociale à l'enfance, où celles qui font le quotidien des services de l'aide sociale à l'enfance n'en sont pas moins amenées à reproduire le vocabulaire, le type d'expertise d'intervenants qui sont des intervenants plus ponctuels. On a là une forme de domination des immobiles par les mobiles en quelque sorte. Ce que le politiste Pierre Lascoum avait appelé les bouclages étranges en matière d'analyse des politiques publiques, c'est-à-dire de dire que quand on définit une politique publique, c'est pas nécessairement au lieu nodal de cette politique publique que celle-ci se définit et qu'il peut y avoir des interactions qui sont complètement en dehors de l'objet de la politique publique, mais qui néanmoins en transforment complètement, complètement le sens. Dans le rapport, dans la gestion d'une équipe administrative, le travail quotidien, la centralité, c'est bel et bien les assistantes sociales et leur rapport aussi, évidemment, aux administratifs, c'est-à-dire ceux qui gèrent les dossiers et qui font une partie essentielle du travail. Donc les psychologues sont reconnus comme ayant une certaine extériorité, même si ceux-ci sont parfois salariés. En effet, mais ils ne le sont pas toujours. Donc, dernier élément. Donc vous voyez quand même comment la question du genre, de la différence des sexes s'insinue dans le travail social. Et s'articule aussi en partie à la question de la parentalité. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que la biologisation du droit est articulée à une autre question, qui est une question de la citoyenneté. Et c'est un chapitre qui s'appelle « Les enfants de la patrie », qui explique que l'adoption, c'est pas simplement un dispositif institutionnel, c'est aussi une métaphore. quand on acquiert la nationalité française, le point de départ de ce chapitre est un extrait de l'émission Mots croisés avec l'intervention de l'essayiste Alain Finkielkraut qui disait que la France n'est pas une auberge espagnole, elle doit se mériter. Il évoque l'intégration et ses devoirs. Il dit « La France, ce n'est pas seulement un ensemble de droits, c'est une patrie adoptive. » Et donc, évidemment, la métaphore de l'adoption, là, ça va bien au-delà des 3000 adoptions internationales. C'est l'idée de dire que l'adoption travaille l'imaginaire de ce qu'est être un citoyen. Un autre exemple très... très révélateur, était l'amendement Mariani qui avait été porté à la loi sur l'immigration en 2007 en matière de regroupement familial. Ce dispositif imposait un test génétique au sein des familles de migrants, c'est-à-dire pour attester du lien biologique entre les différentes personnes qui demandaient le regroupement familial. Ce qui veut dire que l'adoption n'était pas prise en compte comme une possibilité. Si on était concerné par le regroupement familial, mais issu d'une famille adoptive à l'étranger, évidemment, ce dispositif de test génétique serait devenu parfaitement discriminatoire. Un certain nombre d'associations sont intervenues, un certain nombre de chercheurs sont intervenus sur cette question. Et Éric Besson a fini par retirer ce dispositif, essentiellement parce qu'il ne souhaitait pas menacer l'ensemble du dispositif qu'il était en train de présenter sur l'immigration. Il n'empêche que c'est très révélateur du fait que là, l'adoption a été complètement incorporée, en quelque sorte, comme étant un dispositif qui est un dispositif occidental, d'une certaine façon. L'adoption n'est même pas pensée comme possible ailleurs qu'en France. Elle est véritablement nationalisée. L'adoption existe, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pensée du tout, ça veut dire qu'elle n'est pas pensée pour les autres. Ce qui apprend évidemment aussi beaucoup sur la façon dont on va définir ce qu'est être un citoyen au sein d'une nation donnée. On peut aussi réfléchir à la francisation des prénoms dans le cadre de l'adoption et à la territorialité de celle-ci. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je voudrais juste insister sur un point en particulier pour dire que tous les aspects que j'ai mentionnés signifient donc d'une certaine façon que si on contrôle les parents, ce n'est pas seulement pour contrôler les parents, c'est aussi d'une certaine façon pour contrôler les enfants. C'est-à-dire être de bons parents potentiels, et ce n'est pas pour rien qu'on parle tout le temps au nom de l'intérêt de l'enfant, les bons parents, ce sont ceux qui produisent de bons enfants. C'est-à-dire de bons citoyens, de bons futurs citoyens, ceux qui vont bien intégrer ce que c'est que de reconnaître la légitimité des institutions. Et que pour ce faire, le contrôle qui pèse sur les candidats à l'adoption est un contrôle qui est un contrôle de type politique de ce point de vue-là. L'exemple aussi, si je file mon exemple sur la question de l'homoparentalité, c'est la question du placard. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est la question du placard, mais enfin, on parle de placard pour évoquer une homosexualité qui ne serait pas révélée ou connue publiquement. Et un certain nombre de travaux montrent que on n'en a jamais fini avec la question du placard. C'est-à-dire qu'évidemment, même si l'on explique, on révèle son orientation sexuelle publiquement, il n'en demeure pas moins qu'il y a des lieux où on transige avec cette publicité, où on la redéfinit. On n'est pas exactement, on ne gère pas exactement ses identités de la même façon dans l'espace familial, à l'école, sur le lieu professionnel, etc. etc. Il serait possible, du coup, dès lors, de réfléchir à la question de l'articulation entre ce secret-là, le secret sur l'orientation sexuelle, et la question du secret des origines, c'est-à-dire la question des origines de l'enfant ou des enfants adoptés. C'est comme si, en quelque sorte, Le fait qu'il puisse y avoir une adoption par des célibataires ou des couples homosexuels radicalisait la problématique du secret, qui est la problématique du secret propre à l'adoption, en quelque sorte. Un autre élément qui peut être pris en considération, j'avais été moi très surpris lorsque j'avais justement rencontré les travailleurs sociaux et analysé leurs réponses à mon questionnaire, c'est que j'attendais beaucoup plus de réponses assises sur des valeurs religieuses ou assises sur des principes philosophiques, par exemple. Or, en fait, beaucoup signifiaient que leur réticence à l'égard de l'homoparentalité était une réticence liée au fait que ces enfants cesseraient d'être des enfants de la patrie. Ils ne le disaient pas comme ça, évidemment. Mais ils disaient, en gros, ces enfants deviendront des enfants de la seule communauté homosexuelle. Ils sortiraient, ces enfants, de la famille hétérosexuelle, et sortant de la famille hétérosexuelle, ils sortiraient de ce qu'est la citoyenneté. Et donc ça nous interroge là sur la façon dont sont amarrées historiquement la famille, d'une part, et la définition de la citoyenneté, d'un modèle de citoyenneté, d'un modèle de vivre ensemble, d'autre part. Un des arguments que je développe aussi dans l'ouvrage, c'est de dire que, évidemment, dans cette crainte-là, on peut analyser le républicanisme, l'anticommunautarisme et le tracé historiquement tout au long du XXe siècle. Parce que quand les réticences exprimées à l'égard de l'homoparentalité disent « si on ouvre la possibilité à des homosexuels d'avoir des enfants, et des enfants par adoption plénière, c'est-à-dire créer une filiation », pas simplement réaménager une filiation existante par recomposition familiale, c'est-à-dire d'avoir véritablement deux parents ou un parent, ou pourquoi pas trois ou quatre parents si le droit c'était, ou plus si le droit était élargi, du même sexe. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Est-ce qu'il y aurait les mêmes mécanismes de contrôle sur les familles? Est-ce qu'on pourrait, en quelque sorte, obtenir de ces futurs enfants ce que l'on peut obtenir des enfants qui sont élevés dans un cadre qui est un cadre qui a été très largement dont le contrôle a été très largement routinisé. Parce qu'évidemment, l'argument est présenté sous la forme psychologique, c'est-à-dire en gros dire si vous avez des parents homosexuels, il y a un vrai risque d'avoir des enfants homosexuels. Voilà, en gros, l'argument le plus basique est celui-ci. Mais en réalité, derrière cet argument psychologique, il se cache une dimension culturelle beaucoup plus large. C'est-à-dire interroger les cultures homosexuelles comme étant compatibles et ou incompatibles, selon la position des personnes interrogées, avec des cultures qui sont des cultures hétérosexuelles dans lesquelles les enfants ont été élevés depuis des siècles. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la responsabilité va être définie de la même façon? Est-ce que l'enfant sera accompagné de la même façon? D'une certaine façon, ça interroge l'infantilisation des homosexuels. Un des éléments, une des caractéristiques de l'homophobie, c'est d'infantiliser les gays et les lesbiennes, c'est-à-dire de les considérer comme moins responsables. Alors, du côté des lesbiennes, plus invisibles, et du côté des hommes homosexuels, plus volages, et donc moins à même d'élever des enfants, c'est-à-dire d'avoir une espèce de logique de responsabilité pour autrui. On voit ça très bien, au-delà même de la question d'homoparentalité, dans un argument qui est très présent chez les travailleurs sociaux, qui consiste à se méfier des candidatures atypiques. Pour la raison suivante, parce que les candidatures atypiques sont des candidatures qui se présentent dans un contexte social plus difficile. Plus difficile, c'est-à-dire avec moins de routinisation des procédures, avec la question de l'école, etc., etc. Et donc, par conséquent, les parents ou les futurs parents en question voudraient tellement ses enfants, dans des conditions plus difficiles que les autres, qu'en fait, ce serait leur propre désir qui serait premier. Et donc, que les enfants seraient en quelque sorte menacés, étouffés, recouverts par ce désir des parents. Comme si l'intérêt de l'enfant était uniquement pensable dans le cadre d'une filiation désintéressée, comme si avoir un enfant était une chose purement altruiste. Ce qui est quelque chose qui est très présent en France, qui n'est pas du tout présent de la même façon aux États-Unis, par exemple. Quand on regarde le fonctionnement, la description de l'adoption par les services gouvernementaux américains, il est très clairement affirmé que c'est du désir des parents, si j'ose dire, pour paraphraser le terme de l'intérêt de l'enfant, de l'intérêt des parents, que naît l'intérêt de l'enfant, et que ces deux éléments ne peuvent pas être dissociés. Donc, à travers la façon dont on définit les bons parents, on définit les bons enfants, et évidemment, l'infantilisation des homosexuels participe de la transformation de cette articulation entre bons enfants et bons parents. On pourrait même dire, pousser l'argument encore un tout petit peu plus loin, en disant, c'est un argument qu'une chercheuse américaine, Catherine Stockton, a développé dans un livre qui s'appelle « The Queer Child », qui explique que un des éléments de contrôle donc des homosexuels est cette infantilisation, et que il y a dans nos cultures occidentales une certaine peur de l'enfant différent, de l'étrangeté des enfants de façon générale, mais en particulier, et elle prend les exemples de petites filles masculines, de garçons efféminés, et que cette étrangeté là qui a été contenue culturellement par cette infantilisation des homosexuels, c'est-à-dire qu'on les maintient dans ce statut d'enfant étrange, et l'idée et dès lors l'homoparentalité en quelque sorte raviverait ou reconvoquerait l'étrangeté des adultes au contact de l'étrangeté des enfants de façon générale. C'est-à-dire c'est l'expérience de l'étrangeté dans l'enfance vécue par les homosexuels qui serait ravivée et donc potentiellement plus subversive au contact des enfants. Donc on peut aller beaucoup plus loin en quelque sorte dans l'analyse de la biologisation du droit, en disant derrière la biologisation du droit, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est la naturalisation de la citoyenneté. Alors, comme je suis presque arrivé au terme de mon intervention, je ne vous parlerai pas de ce que je voulais dire au départ, c'est-à-dire la façon dont on peut transformer cette situation, mais je voudrais simplement évoquer quelques exemples en disant que l'adoption offre de nombreuses possibilités relationnelles, donc je l'ai dit, un écart d'âge ramené à 10 ans, qui peut être ramené à 10 ans, la possibilité d'avoir jusqu'à 4 parents, la capacité à hériter de plusieurs familles simultanément dans le cadre de l'adoption simple, le consentement à sa propre filiation pour les enfants de plus de 13 ans, des adoptions au sein d'une fratrie également. On pourrait aussi en imaginer d'autres, c'est-à-dire le renversement des rapports générationnels entre adultes, c'est-à-dire la possibilité pour des adultes plus jeunes d'adopter des adultes plus âgés, comme ce fut le cas par le passé, ou de soutien à différentes formes de compagnonnage temporaires ou non. Donc il y a une richesse dans l'adoption qu'il me semble importante de mobiliser, mais il me semble que cette richesse ne doit pas pour autant diluer les formes existantes d'adoption. Les adoptions plénières et simples correspondent à des besoins spécifiques qui doivent plus que jamais être comblés et ouverts à tous. Il s'agit de l'adoption d'enfants abandonnés, nés sous X, placés ou élevés par les beaux-parents, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger. Et il me semble donc aussi hasardeux que de s'en remettre à un idéal relationnel infiniment extensif que de s'en remettre à une configuration conjugale hétérosexuée. d'une certaine façon, pour reprendre le terme d'Hannah Arendt, qui parle du désir d'affinité humain, il me semble que le désir d'affinité humain se nourrit tant de l'exclusivité que de la pluralité, et c'est précisément cette combinaison, et non le corps en tant que tel, sans cesse renégocié, qui rend possible la transmission et lui confère sa capacité de résistance aux assignations pastorales en tout genre. Merci beaucoup.
Et oui, c'était Bruno Perrault. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et Bruno Perrault est un politiste qui vient de sortir, quoi, c'était il y a un peu plus d'un an, un bouquin sur l'adoption. Donc si vous voulez en savoir plus, ça s'appelle Penser l'adoption. Et c'est aux éditions PUF. Alors tout à l'heure, dans son intervention, il parlait du mécanisme de contrôle routinier. On choisissait des bons parents pour faire des bons enfants. Et alors, si vous voulez, il y a une tribune de Béatrice Preciado, justement sur les enfants différents dans le Libé d'hier, qui est tout à fait jouissif, qui s'appelle « Qui défend l'enfant queer ?». Et donc, aujourd'hui, à l'époque où on parle justement de tout le débat sur le mariage homosexuel et sur l'adoption et sur la PMA, c'est le moment de s'y mettre. Et toi, je crois que tu avais vu aussi un...
Oui, tout à fait, parce que je trouve qu'effectivement, en ce moment, il y a une très forte instrumentalisation des enfants de familles homoparentales. On a diffusé la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, le propos de Louise Fasso-Monaldi, auditionnée à l'Assemblée nationale par la commission sur sa situation de fille de famille homoparentale. Et je voulais aussi dire qu'il y avait l'audition de Pablo Seban, qui est très intéressante. Il explique qu'en fait... pour pas dire l'homosexualité c'est un problème, on dit oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec les enfants d'homo ? Ce qui m'amène au dessin du canard aujourd'hui, enfin un des dessins dans le canard d'aujourd'hui qui est très drôle.
Le canard enchaîné.
Le canard enchaîné, exactement, pardon. C'est un dessin avec un texte en haut, un papa plus une maman égale un enfant. Ensuite il y a la photo d'Hitler, enfin la photo, un dessin d'Hitler et un texte. Sans mon papa et ma maman, comment aurais-je pu trouver mon équilibre ?